Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une statistique qui, franchement, a de quoi donner le vertige. L'Église catholique vient d'ajouter 8 millions de nouveaux fidèles.
En une seule année, oui.
Exactement, en une seule année. Et tout ça sur le continent africain, pendant que les églises se vident silencieusement en Occident. Alors aujourd'hui, on analyse les ondes de choc d'un événement vraiment sans précédent. Le pape Léon XIV est en plein milieu d'une tournée marathon en Afrique. On parle de 11 jours historiques.
Et plus de 17 000 km parcourus à travers 4 pays, l'Algérie, l'Angola, le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est pas une mince affaire.
Non, c'est énorme. Et la question qui se pose très concrètement aujourd'hui, c'est de savoir si cette tournée consacre définitivement l'Afrique comme le nouveau moteur triomphant de la foi mondiale ou s'il s'agit plutôt comme une loupe grossissante sur des fractures internes qui menacent l'institution. Pour moi, la réponse est assez claire. Ce voyage prouve que l'Afrique n'est plus la périphérie de l'Église, elle en est devenue le centre névralgique qui non seulement absorbe la foi, mais l'exporte et pèse comme une force de paix majeure.
Eh bien, je vous dirais que c'est une lecture très, très de façade. Pour moi, cette croissance démographique fulgurante que vous célébrez, c'est en réalité une bombe à retardement. Derrière les millions de baptêmes, l'institution navigue complètement à l'aveugle au milieu de contradictions doctrinales et politiques qu'elle n'a tout simplement pas l'infrastructure pour gérer.
Alors, regardons un peu la mécanique de cette croissance. Parce qu'on ne parle pas d'un simple rebond statistique. 8 millions d'âmes supplémentaires en un an, c'est une transformation systémique. Et ce qui me frappe, personnellement, ce n'est pas juste le volume.
C'est quoi alors ?
C'est le changement de nos postures. L'Église africaine est, à mon sens, arrivée à maturité théologique. Et comment on le mesure ? Eh bien, par sa capacité d'exportation. Je veux dire, aujourd'hui, ce sont des prêtres béninois, congolais ou camerounais qui viennent tenir les paroisses rurales en France ou en Italie.
Oui, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup, c'est vrai.
Voilà. L'Afrique ne consomme plus le catholicisme européen. Elle le produit et elle le redistribue. Donc ce que fait le pape Léon XIV avec cette tournée, ce n'est pas une inspection coloniale, c'est la reconnaissance diplomatique d'un continent qui maintient l'Église universelle en vie.
Je crois que vous confondez le volume avec la solidité structurelle. Une croissance aussi foudroyante sans le cadre institutionnel pour l'assimiler, c'est dangereux. C'est même le meilleur moyen de disloquer une organisation bimillénaire. Comment on maintient l'unité d'un dogme quand la base explose à cette vitesse ?
C'est un défi, certes, mais...
C'est plus qu'un défi. Parlons des vraies lignes de faille sur le terrain. L'universalité de l'Église, le fait que « catholique » signifie « universel », je le rappelle, elle est constamment fracturée par les réalités ethniques. Regardez un peu comment se passent les nominations d'évêques dans plusieurs diocèses africains.
Vous parlez des tensions locales, oui.
Des tensions qui bloquent tout. Si Rome nomme un évêque issu d'une ethnie différente de la majorité de ses fidèles, on assiste à des boycotts, à des églises littéralement barricadées. L'appartenance tribale ou ethnique prime sur l'autorité apostolique. Ça, c'est une faille sismique sous l'idée même de catholicisme.
C'est un défi d'intégration locale, je vous l'accorde. Mais ça n'invalide absolument pas la dynamique globale. L'universalité, ça ne veut pas dire l'effacement magique des identités locales en une seule génération.
Mais ça va bien au-delà de la politique locale, enfin. Ça touche à la substance même des sacrements. Prenez la réalité de la polygamie face à l'orthodoxie matrimoniale de l'Église.
Ah. Question de la polygamie.
Oui, parce que le mariage catholique repose entièrement sur le sacrement de l'exclusivité et de l'indissolubilité. Alors que fait un prêtre sur le terrain face à un chef de famille qui a trois épouses et qui demande le baptême pour lui et sa famille ?
Et c'est une situation pastorale très complexe, c'est certain.
C'est un casse-tête insoluble. Est-ce qu'on exige qu'il répudie deux de ses épouses ? Si oui, l'Église crée une tragédie sociale terrible pour ces femmes rejetées, sans ressources. Mais si on l'accepte telle qu'elle ?
On adapte la pastorale.
Mais on crée un précédent qui détruit le dogme central du mariage pour le reste du monde catholique. C'est une collision frontale. Vous voyez bien que vos 8 millions de fidèles forcent l'Église à tordre son propre cadre jusqu'à risquer la rupture.
Alors là, je repousse totalement l'idée que ces défis annoncent une rupture doctrinale. Laissez-moi vous donner une autre grille de lecture. Si vous imaginez l'Église comme une maison centenaire.
Une très très vieille maison, oui.
Exactement. Vous décrivez ces tensions culturelles comme les fissures d'un toit qui s'effondre. Mais c'est faux. Ce que nous entendons, ce sont les bruits d'une maison en pleine expansion. Elle doit abattre ses murs porteurs d'origine pour ajouter une aile immense. Évidemment que le bois craque, évidemment qu'il y a de la poussière.
C'est une belle image, mais...
Mais ça force simplement le Vatican à faire un tri salutaire. Qu'est-ce qui relève du simple bagage culturel européen accumulé pendant 2000 ans et qu'est-ce qui est le noyau dur, inaltérable de l'Évangile ? Ce processus de décantation, il est brutal, oui, mais c'est le propre d'un organisme vivant qui métabolise son environnement.
L'analogie de la maison en chantier est séduisante, vraiment. Mais elle présuppose que vous êtes le seul maître d'œuvre. Or, cette maison, elle ne se construit pas en vase clos, sur un terrain neutre. Dès que l'on sort de l'enceinte de la paroisse, on se cogne aux mœurs du pouvoir temporel.
Aux réalités politiques, oui.
Et là, la boussole morale de l'Église perd complètement le nord. Regardons très concrètement l'étape de cette tournée en Guinée équatoriale. C'est le cas d'école du paradoxe insoutenable pour Rome.
Un paradoxe économique majeur, oui, c'est clair.
Pire que ça, c'est un piège diplomatique absolu. La Guinée équatoriale est assise sur une rente vertigineuse de pétrole, d'or et de minerais. Une richesse confisquée par l'élite du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Et pendant ce temps, la population, elle, croupit dans une misère systémique.
Le contraste est tragique, on est d'accord.
Alors, quand le pape atterrit à Malabo, qu'il descend de l'avion sur un tapis rouge et qu'il serre la main de ce pouvoir, comment croyez-vous que c'est perçu localement ? L'Église, qui prêche l'option préférentielle pour les pauvres, vient littéralement offrir une validation symbolique à ceux qui les maintiennent dans la pauvreté.
C'est une lecture...
La télévision d'État ne va pas diffuser un sermon sur la justice sociale. Elle va tourner en boucle les images du président tout sourire aux côtés du Saint-Père. C'est une caution morale inestimable accordée à une asymétrie de richesse révoltante. Voilà comment votre maison en expansion se compromet.
Ceux qui nous écoutent pourraient se dire, en effet, que cette poignée de main est une capitulation morale. Je comprends. Mais c'est méconnaître la mécanique profonde de la diplomatie vaticane. Le pape ne se déplace pas pour distribuer des brevets de vertu démocratique. Il utilise ce que j'appelle la subversion par l'attention.
La subversion ? En marchant sur un tapis rouge.
Oui. Laissez-moi faire un parallèle historique très clair. Quand Jean-Paul II est retourné dans la Pologne communiste en 1979, il n'a pas validé le régime soviétique en serrant la main des officiels. Il a retourné l'attention mondiale sur eux. Et mieux encore, il a permis aux millions de Polonais de se réunir physiquement et de réaliser leur propre force face à l'État. En se rendant en Guinée équatoriale, Léon XIV fait exactement la même chose. S'il n'y allait pas, ce pays resterait un trou noir médiatique, ce qui est bien confortable pour ses dirigeants. Par sa seule présence physique, il braque les projecteurs de la presse mondiale sur cette fracture délirante entre le sous-sol et la rue. Il vient court-circuiter la propagande d'État, vous comprenez ?
La comparaison avec la Pologne de Jean-Paul II est franchement historiquement boiteuse. En Pologne, il y avait un syndicat, Solidarnosc. Il y avait une société civile structurée prête à utiliser cette brèche. En Guinée équatoriale, l'opposition est laminée et les ressources casières verrouillent toutes les alliances internationales.
Mais l'attention médiatique...
Et soyons lucides sur cette fameuse attention mondiale. Combien de temps dure-t-elle en fait ? 48 heures ? Le temps que l'avion papal redécolle pour sa prochaine destination. Dès que les journalistes internationaux repartent, le régime, lui, il garde précieusement la photo du pape bénissant les autorités. Et il l'utilise pendant une décennie comme bouclier contre les critiques. L'attention est éphémère. La légitimation iconographique, elle, est permanente.
Si vous pensez que l'attention médiatique est si éphémère face à une dictature institutionnalisée, alors regardons ce qui se passe quand l'Église s'avance sur des terrains où l'État lui-même s'est effondré, là où il n'y a même plus de tapis rouge à dérouler.
Vous voulez parler des zones de conflit ?
Je parle des zones de violence ouverte, oui. C'est là que le pari du pape prend toute son ampleur géopolitique. Je pense notamment au Cameroun et à l'Algérie.
Deux contextes extrêmement différents, mais tout aussi risqués pour l'institution, je le rappelle.
Précisément. Mais c'est là que le pouvoir spirituel devient une véritable arme diplomatique. Au Cameroun, le pape ne va pas seulement à Yaoundé dans les salons feutrés. Il se rend à Bamenda. On parle d'un territoire totalement déchiré par la crise anglophone.
Où la violence et la répression ont fait des ravages, oui.
Un tissu social en lambeaux, et pourtant des centaines de milliers de fidèles l'y attendent. Dans ce vide politique, où toutes les négociations séculaires ont échoué, l'Église arrive avec son capital. Ce n'est plus de la diplomatie classique de chancellerie là. C'est transformer une messe gigantesque en un acte de pacification physique.
Je vois l'idée, mais...
Et c'est la même chose en Algérie, sur un axe différent. En rencontrant les autorités religieuses musulmanes, le pape tente de consolider une digue interreligieuse contre l'extrémisme. Il joue sur cette ligne très fine de la mémoire partagée.
Le mot-clé dans tout ce que vous venez de dire, c'est « symbole ». C'est un geste d'une grande poésie spirituelle, je vous l'accorde bien volontiers. Mais relions ça à la réalité clinique de ces conflits.
Ce n'est pas que de la poésie.
La croyance qu'une prière commune ou un discours papal peut désamorcer des causes économiques et historiques profondes, ça relève de la pensée magique. À Bamenda, prier devant une foule traumatisée, c'est magnifique sur le moment. Mais le lendemain matin, les barrages militaires sont toujours là. La ségrégation économique est toujours là. C'est un pansement symbolique collé sur une hémorragie sociopolitique.
L'Église n'est pas une armée ?
Et en Algérie, vous parlez d'une ligne fine de la mémoire. Mais la mémoire de la décennie noire ou des traumatismes coloniaux, ça ne s'efface pas avec un dialogue de courtoisie entre dignitaires.
Le danger pour l'Église, c'est de susciter des attentes démesurées auprès de populations désespérées, pour finalement ne laisser derrière elle qu'une belle homilie, sans aucun levier économique pour garantir la paix.
C'est une critique qui exige que l'Église soit ce qu'elle n'est pas, en fait. Bien sûr qu'elle n'a ni bataillon militaire, ni levier macroéconomique. Mais comment croyez-vous qu'on commence à résoudre un conflit quand les belligérants n'ont même plus les mots pour se parler ?
Par des négociations réelles. Mais le propre de la diplomatie religieuse, c'est de fournir un prétexte transcendant pour rouvrir ce canal de communication. À Bamenda, la présence papale oblige temporairement les armes à se taire. Elle force les acteurs locaux à garantir la sécurité ensemble. C'est un laboratoire éphémère de paix. Ce pansement symbolique dont vous parlez avec un certain cynisme...
Du réalisme, plutôt.
C'est l'étape médicale absolue avant de pouvoir opérer la plaie politique. L'Église n'apporte pas le traité de paix signé, elle fabrique l'espace, le langage commun et l'attention nécessaire pour que ce traité puisse exister un jour. C'est ça son véritable pouvoir structurel aujourd'hui.
Un pouvoir qui sert parfois d'anesthésiant local. Quand la paix est prêchée par le pape, on voit très souvent les responsables politiques et militaires, ceux-là même qui sont responsables des violences, s'asseoir au premier rang pour recevoir la bénédiction. Ils s'achètent une virginité politique à peu de frais, pour mieux reprendre la guerre d'usure une fois la ferveur retombée. Le langage commun dont vous parlez, il est très facilement piraté par les cyniques locaux. C'est la limite intrinsèque d'une Église qui veut être à la fois le berger spirituel des opprimés et le partenaire diplomatique des puissants. En Afrique, ces deux rôles s'entrechoquent avec une violence inouïe.
Écoutez, si on prend un peu de recul sur tout ce que nous venons de décortiquer, de la polygamie à la géopolitique du pétrole, en passant par les zones de guerre, je maintiens que le bilan de cette tournée est fondamentalement proactif. Oui, l'Afrique est un terrain complexe.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais les 8 millions de croyants supplémentaires par an prouvent que le message passe et qu'il est réapproprié. Le fait que le pape décide d'affronter frontalement les paradoxes d'Obiang Nguema, le deuil de Bamenda et le dialogue en Algérie, ça prouve que l'Église n'est plus dans une logique de préservation prudente. Elle est dans l'action. L'Afrique est devenue le centre de gravité non pas parce que c'est un continent facile, mais parce que c'est là que se trouve la vitalité brûlante dont le catholicisme a besoin pour son avenir.
Cette vitalité brûlante risque surtout de déclencher un incendie que Rome ne pourra pas éteindre. Pour moi, ce périple de 17 000 km démontre implacablement que l'Afrique est un terrain miné pour l'institution. Vous voyez un centre de gravité proactif, moi je vois une institution surexposée, rendue extrêmement vulnérable.
Vulnérable vraiment ?
Oui. Vulnérable à la fragmentation ethnique de son clergé, vulnérable aux récupérations politiques des dictatures de rente, et vulnérable à l'impuissance de sa propre diplomatie face aux guerres. L'importance numérique de l'Afrique est incontestable, c'est un fait. Mais elle force le catholicisme à regarder dans un miroir où toutes ses contradictions doctrinales et morales apparaissent au grand jour.
Nos lectures s'opposent sur les conséquences, mais nous constatons au moins la même réalité. La visite de Léon XIV ne ressemble en rien à une tournée administrative ou à la visite de routine d'un PDG en province.
Ah ça non. C'est un événement d'une densité politique inouïe.
Absolument.
Et d'un danger absolu pour le statu quo du Vatican. L'avenir mondial de l'institution, avec toute la lourdeur de son dogme bimillénaire, est désormais intimement lié au destin de ce continent, pour le meilleur et potentiellement pour le pire.
Eh bien, nous laisserons ceux qui nous écoutent observer par eux-mêmes les ondes de choc de ces 11 jours historiques. La véritable issue de ce voyage ne se lira pas dans les communiqués officiels du Vatican demain matin. Elle se lira dans la façon dont les prêtres locaux, les chefs d'État et les fidèles africains vont métaboliser cette visite dans les 5, 10 ou 20 prochaines années.
Tout à fait.
Une chose est sûre, l'aiguille de la boussole catholique a définitivement basculé vers le sud. La question reste ouverte de savoir si ce nouveau pôle magnétique guidera l'institution vers une ère de renouvellement inédit ou si la brutalité des forces en présence finira par briser le cadran lui-même. Merci d'avoir partagé vos réflexions dans le débat.
Merci à vous.